Mobile studio.
Studio mobile, radio du roi, ici et là.
Bonjour, vous écoutez RDIWA 107.5 sur la bande FM et www.rdwa.fr sur Internet. Aujourd'hui, nous allons dans le département voisin, de l'autre côté du col de Cabre, à la Haute-Baume, pour un événement qui avait lieu le 9 mai, tous en bottes. J'ai enregistré pour vous cette conversation entre voisins.
Vous faites quoi là ?
Eh bien, on a un stand anti-éolien industriel contre les projets qui viennent, qui veulent mettre sur la montagne.
Ils veulent mettre un projet sur la montagne ?
Ah ouais. Des éoliennes.
Ouais. Six éoliennes.
150 mètres de haut.
Rien que ça.
3 mégawatts.
Et qu'est-ce que vous leur reprochez à ces éoliennes ?
Plein de choses. Déjà leur accès, les pistes. Donc les pistes, c'est une atteinte grave à la nature parce que ça passe sur 8 mètres de large, 28 mètres pour les axes de virage. Donc on coupe la montagne, on fait tomber la terre. Après, il paraît qu'on remet en état, mais on ne met jamais en état une montagne sacrifiée comme ça. Sur 6 fois 300 mètres, ça fait quand même 1800 mètres à partir de la première éolienne. Donc vous avez une montagne qui est ravagée pour au moins 20 ans. Après, vous avez des éoliennes qui tournent 20% du temps, qui sont là, qui font des nuisances.
Ça profite d'une minorité et ça emmerde une majorité.
Donc pour rapporter quoi ? 20 000 euros à une commune qui en a 3 ? Gracieusement, généreusement. Et puis après, ben, vous avez les gens qui les regardent tous les jours de leur vie. Pour 20 ans, 25 ans, Boralex annonce 60 ans, 4, 3 générations, ma foi, dans quel état ? L'entretien, il est fait un peu par les Espagnols, un peu par les Allemands. Les Français, on ne sait pas où ils sont. Elles ne sont pas produites en France. Elles ne sont pas montées par des Français. Il n'y a que les pistes qui sont débardées par des entreprises locales, évidemment. Et si, il y a sur le site. Après, tout ce qui va être béton, ça va venir d'ailleurs. La Haute-Alpes ne travailleront jamais. On n'a pas la capacité béton pour ça. Donc, on va avoir des projets sur le Haut-Buech, 60 éoliennes, 250 mètres, pour ne pas faire travailler notre pays. Pour sacrifier l'immobilier des gens, la sérénité des gens. Il faut savoir que dans les Hautes-Alpes, les gens viennent. On dit que c'est un pays dépeuplé, c'est un pays où il n'y a rien, il n'y a pas de richesse, nos élus le disent. Mais quand vous avez une région où il y a, c'est vrai, peu d'habitants, les gens qui sont venus là, ils ont fait un choix de vie. Ils n'ont peut-être pas le médecin à la porte, ils n'ont certainement pas la pharmacie. Les services publics, il faut aller à Gap, il faut faire 50 km, voire plus, selon où on est. Mais c'est un choix. On le sait quand on arrive, quand on fait. Quand on est né là, on a fait avec, on vient là, on le choisit. Et du jour au lendemain, on vous dit, ah ben on va faire de votre région que vous aimez, que vous avez choisi, un parc industriel. Parc industriel à 150 mètres de hauteur, sur nos montagnes, personne ne pourra les rater. Mais il n'y aura plus de tourisme. Tourisme vert, il sera homéopathique. Il n'y aura pas de rentabilité, puisque ça va tourner 20% de son temps. On n'a pas des vents véritablement établis, on a beaucoup de vents en rafale. Trop fort ou trop faible. Et après, on n'arrive pas à voir les mesures de vent d'ailleurs sur le projet de la Haute-Baume. On ne sait pas si véritablement le vent est là. Mais comme il y a des subventions, comme tout le monde la paye, cette électricité qui est rachetée 2 fois plus cher que ce qu'elle coûte, on fonce droit devant. Sur de l'éolien, on ne peut pas stocker l'énergie, donc quand elle ne tourne pas, il n'y a pas d'électricité. Donc il faut des centrales. En Allemagne, ils l'ont prouvé. En Allemagne, ils ont mis des centrales thermiques, ils ont rouvert des mines de charbon. Ils polluent, c'est les premiers pollueurs. Le Danemark fait marche arrière sur son projet éolien pour des problèmes de santé. Nous, en France, on ne fait pas d'études. Il n'y a pas de problème de santé. Enfin, beaucoup de questions dont on aurait peut-être aimé avoir les réponses avant que ces projets soient mis en avant. Beaucoup de concertations qui n'ont pas lieu. On n'est pas concerté, on ne demande pas l'avis des gens. On leur dit, vos montagnes, vous êtes une zone où il n'y a personne, où vous êtes si peu nombreux qu'on peut vous sacrifier. Pour qui, pourquoi? Certainement pas pour le plus grand nombre, puisque de toute façon, ça représente au jour d'aujourd'hui 4% de la production énergétique française. Donc on ne peut pas dire qu'on en a besoin, on exporte 17% de notre production électrique en France. Remplacer le nucléaire, oui, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va remplacer le nucléaire. Et ça fait 10 ans qu'on ne ferme aucune centrale, aucun réacteur. Même Fessenheim, les politiques ne veulent pas la fermer. C'est l'emploi du bassin. Donc ils ne peuvent pas fermer cette centrale aussi facilement qu'ils le voudraient. Donc oui, plein de questions. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va être pénalisé. On n'ira pas sacrifié. Mais bon, vivre à côté, moi j'ai vécu à côté. Je sais ce que c'est. C'est des flashs lumineux, nuit et jour. Dès que vous les regardez, c'est l'effet stroboscopique des pales. C'est le soleil qui se reflète dessus, selon l'orientation. Alors, soit vous avez des levées de soleil en kit, soit vous avez des couchers de soleil en kit, avec des petites ombres qui passent. Donc, un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir. Pourquoi? Pour l'argent de certains. Pas pour l'argent de tous, puisqu'on la paye tous les mois sur notre facture d'électricité, cette énergie. On ne donne que l'image. On dit, c'est propre. Propre, hein. Enfin, le bilan CO2 de la fabrication d'une éolienne, on pourra en parler longuement.
Mais... Et puis défoncer une montagne, est-ce
voilà.
que c'est propre?
Est-ce que c'est propre? Détruire des espèces protégées, est-ce que c'est propre? Alors là, on va remettre en cause la convention de Berne pour les oiseaux, etc. Mais bon, c'est bien. Si on ne les protège pas, ils ont même des droits à détruire. Donc c'est quand même extraordinaire.
Oui, il y a une question que je me pose depuis pas mal de temps, peut-être vous allez avoir un bout de réponse. Je me demande pourquoi on construit toujours des éoliennes aussi énormes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de construire des petites unités
moins impactantes.
Voilà.
Pour les industriels, c'est pas rentable.
C'est pas rentable.
Pour les industriels, j'ai bien dit. Attention,
oui. Pour le...
Comme je ne suis pas industrielle,
non, mais j'ai bien compris.
De poser la question.
Non, mais vous faites bien.
Nous non plus. Mais on a vu l'exemple sur le projet de la Haute-Baume, où il y avait un projet initial de 5 ou 6 éoliennes de taille 120 mètres, où on est passé à 3 éoliennes de 150 mètres de hauteur, avec la même puissance en production, mais simplement plus que 3 loyers pour la commune.
Et oui. Non, mais c'est une histoire de gros sous. C'est du business.
C'est du business. Qu'ils fassent du business, oui, ça se comprend, c'est leur métier, mais au détriment
de tout le reste.
De tout le reste. C'est incompréhensible. Bon, on fait pas, il n'y a pas que les éoliennes, malheureusement. Hein. On est conscient que notre combat, il n'est pas uniquement pour... par rapport à... C'est un mode de société, quoi.
Oui, c'est un mode de pensée.
De consommation, de pensée. On peut aller très loin. Mais bon, pour l'instant, nous, on est confrontés à des projets éoliens. Ces messieurs sur la Haute-Baume et Montbrun et nous-mêmes sur la Saint-Julien-Beauchesne, puisqu'il y a un projet de 10 éoliennes qui est en train de se faire. Hein. Donc ça fera déjà 16 éoliennes sur un rayon de moins de 7 km. C'est énorme.
Et puis si vous voulez, si on a une, de notre façon, c'est oui, si on a une, voilà. Il y en a 60. Hein.
Voilà. Ouais. La première qui arrivera doit ouvrir à la porte aux autres.
Ouais.
Mais bon, c'est très difficile de se faire entendre, d'être au moins entendu. Alors là, moi je suis effarée.
Qui c'est les interlocuteurs?
Alors nos interlocuteurs devraient être nos maires, nos maires puisqu'ils sont dans nos communes, dans la communauté de communes. Et après, le dernier qui pourrait nous orienter, nous aider, ce serait le préfet. Mais ça, c'est l'État. L'État, lui, il est sur son schéma régional éolien. Il faut en mettre, qu'importe les circonstances, qu'importe les dégâts. On fonce, on veut de l'éolien. Parce que toute la politique soi-disant énergétique de nos dirigeants est « il faut fermer le nucléaire ». Là, nous, on a beau essayer de réfléchir en disant « on veut bien être citoyen, on veut bien s'investir dans des projets », mais on ne voit pas comment on va fermer du nucléaire avec de l'éolien. C'est impossible. Il faudrait mettre des millions d'éoliennes sur le pays pour arriver à faire ne serait-ce qu'une centrale. Alors à quoi ça va servir, sinon à enrichir certains? Oui, c'est un lobby financier, de toute manière.
On a face à nous des industriels qui ont su récupérer un discours écologique, sur Voilà, c'est une doxa, ils récupèrent ça, et puis voilà, on fait de l'éolien, on fait de l'éolien. On ne sait pas pourquoi on fait de l'éolien, ça ne sert à rien, comme disait Hélène, on n'en a pas besoin. Et comme on a un personnel politique qui a malheureusement démissionné de tout, bah, on fait de l'éolien, puis on file à des industriels, débrouillez-vous les gars.
C'est des douanes, oui. L'écologie qui se dédouane.
Ce qui est navrant, c'est que l'humain n'est plus pris en compte. La santé des gens, le respect des gens, de leur propriété, de leur bien-être.
Et puis absolument plus. Simplement la volonté des gens.
Vous savez, nous, à Saint-Julien-en-Beauchesne, on a fait une pétition. Dès qu'on a entendu parler projet éolien, on venait de découvrir celui de la Haute-Baume et de Montbrun. On a dit, on va faire une pétition, on va recueillir l'avis des gens dans notre village. Donc c'est un village de 128 habitants, on a recueilli 85 signatures, sans rencontrer tout le monde puisque c'était les vacances. 85 signatures, la pétition a été envoyée au préfet, la pétition a été remise au maire, je ne sais même pas s'il l'a ouverte. Donc il y a véritablement une décision unilatérale de dire, on ne se concerte pas avec la population, on met des éoliennes parce que on va ramasser de l'argent. Je fais sur notre commune, c'est une question d'argent. Je pense que sur la commune de la Haute-Baume et de Montbrun, c'est qu'une question d'apporter de l'argent pour les budgets. Là, il nous faut de l'argent parce qu'on est une communauté de communes qui est pauvre. C'est vrai, on est une des plus petites communautés de communes, la moins peuplée. Donc effectivement, il y a moins de rentrées, il n'y a pas de tourisme, on n'est pas station, on n'est pas air touristique.
Il y a peut-être moins de dépenses aussi.
Il y a moins de dépenses. Ils vous diront toujours qu'il y a des dépenses, parce que justement, du fait de maintien de services publics, on est obligé de maintenir des lignes de car, on est obligé de maintenir des assistances aux personnes âgées dans les villages.
On leur dit, par exemple, fusionnez vos communes. Moi, je suis dans la Haute-Baume, 6 habitants, 9 conseillers municipaux. Quand on leur dit fusionnez vos communes.
6 habitants, 9 conseillers municipaux. Comment vous faites? C'est la multiplication des petits pains.
On fait venir des gens de l'extérieur, comme ça on bourre les listes électorales et le maire, c'est ça la démocratie. Mais peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais quand on leur dit faites des économies d'échelle, mettez en commun vos compétences. On a fait un petit calcul. Les 8 communes du Haut-Buëch, ça représente en frais d'indemnité de fonctionnement, c'est quasiment 100 000 euros. Boralex, quand il est venu installer son projet, nous a dit nous, on va reverser 150 000 euros. Et commençons déjà par faire des économies d'échelle, commençons à mettre en commun nos compétences, etc. Et puis après, en gens intelligents, on essaiera de trouver une solution citoyenne. Mais ça, les maires ne veulent pas. Vous vous rendez compte? C'est des petits coqs sur leur tas de fumier. Et nous, on est un tout petit tas de fumier. À Saint-Julien, ils ont un plus gros tas de fumier. À La Baume, c'est un petit peu plus.
Oui, mais c'est toujours un tas de fumier.
C'est toujours un tas de fumier. Et on est dans cette problématique-là qu'a souligné Hélène, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prise en compte de la citoyenneté. Aucune. Aucune, aucune.
Ni démocratie, ni citoyenneté. Moi, je me bats pour accéder à des renseignements. Maintenant, il faut que je demande l'autorisation au préfet. Parce que je suis Hélène Saletti et je suis présidente d'une association. Donc il me faut l'autorisation du préfet pour accéder à un service public. Je trouvais ça extraordinaire. Mais je vais faire courrier, je vais demander mon autorisation.
C'est combien un loyer pour un machin comme ça?
Alors un loyer en montagne, c'est entre 5 000 et 7 000 euros. En plaine, c'est entre 2 000 et 4 000 euros.
Combien ça rapporte?
Ça rapporte, une éolienne rapporte en moyenne 360 000 euros par an. Sur des zones peu vantées, c'est-à-dire en comptant véritablement le minimum.
Oui, c'est tellement subventionné que c'est pour ça que ça rapporte. Si demain il n'y a plus de subventions.
Vous aviez une émission l'autre soir sur FR3, c'était véritablement très éducatif, dirons-nous.
Oui.
Et donc la journaliste disait, quant à la rentabilité, elle interviewait un monsieur, donc le directeur général de Boralex, monsieur De Costre, et donc qui disait mais il n'y aurait pas les subventions, il n'y aurait pas le rachat d'électricité, il n'y aurait pas d'éolien en France.
Carrément.
C'est le numéro 3 français.
Derrière EDF et GDF.
Il expliquait également que leurs installations, elles sont amorties au bout de 7 à 8 ans. Voilà. Est-ce que vous connaissez des projets éoliens? Une éolienne, ça coûte à peu près 3 millions d'euros. Est-ce que vous connaissez des installations industrielles qui, sur ces sommes-là, arrivent à s'amortir en 7 à 8 ans? Moi, j'en connais pas.
En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est subventionné, on rachète pendant 15 ans. Donc, alors, au bout de 7 ans, c'est amorti. Donc, après, pendant le reste.
Donc, ils en profitent pendant 8 ans. Et au bout de 15 ans, les ruines sont à nous.
Voilà. Les ruines sont à nous, c'est ça, oui. Parce que le démantèlement, ça, c'est aussi un sujet qui nous inquiète. Hein. Parce qu'ils bloquent 50 000, ils sont censés bloquer 50 000 euros par éolienne pour démanteler en fin de vie de l'éolienne. Soit la démanteler complètement, soit la remplacer. Ça, après, ça fonctionne des contrats de rachat d'électricité. Mais le souci majeur, il est, c'est que 50 000 euros, au jour d'aujourd'hui, le moins cher sur la plaine, c'est 300 000 euros de démantèlement par éolienne. Le seul devis qui ait jamais été fait en France, qui réussit à être obtenu par une association, c'était pour une moyenne montagne, ça a été 900 000 euros l'éolienne en démantèlement. Prix dégressif pour celles qui sont derrière, puisqu'une fois que les grues sont montées, les camions sont là, on peut bien en enlever plusieurs. Mais 50 000 euros à ne serait-ce que 300 000, il y a 250 000 euros. Il faut les trouver.
Oui, et puis c'est en plaine.
Ça, c'est en plaine.
C'est pas là-haut.
Ici, voilà. C'est en montagne.
Pour l'instant, en montagne, il n'y a pas d'expérience, parce que c'est des parcs qui se montent depuis 2-3 ans, qui n'ont pas de vécu. Donc, pour le démantèlement, il n'y a pas de vécu. Le seul vécu qu'il y a, c'est dans le nord de la France, dans le centre France, où il y a des parcs éoliens qui arrivent en fin de vie. Donc, il faut démanteler. Ou éventuellement dans le sud-ouest, dans l'Aude, où ils ont été couffis d'éoliennes. Donc, nous, ça nous inquiète, parce que en général, les promoteurs éoliens exploitent, amortissent, donc 8 ans. S'ils vont jusqu'à l'amortissement, c'est bien. En général, ils essayent de vendre un petit peu avant, parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, ils revendent à un parc, à un autre promoteur, qui n'est pas forcément un promoteur, c'est quand même de l'occasion. Pas quelqu'un qui va mettre cash 30 millions d'euros sur la table. Donc, il va y avoir des négociations. Et à la sortie, est-ce que cette société, qui n'est plus celle du départ, va avoir les reins assez solides pour mener le projet jusqu'au bout ? Il se passe beaucoup, bien des fois, là on le voit aussi déjà en Belgique parce qu'ils sont un petit peu en avance sur nous, et ben, vous avez des parcs éoliens, il n'y a plus personne, il n'y a plus de société. Et ben, le responsable du démantèlement, qui peut être exigé par le préfet, c'est ben, le propriétaire du sol. Donc ça va être soit l'agriculteur qui a essayé, lui, ben, d'améliorer son petit...
Ils ont étudié le problème,
Soit, le pire, les communes, où les gens n'ont pas vu beaucoup de choses revenir jusque chez eux, et qui par contre vont se retrouver... Voilà, et qu'ils ont dépensé, parce que c'est pas leur tâche de faire des provisions pour démanteler, et qu'ils vont se retrouver du jour au lendemain, s'il y en a 10, et ben vous faites 300 000 par 10, à emprunter 3 millions d'euros pour démanteler, alors qu'on n'arrive pas sur nos petites communes à avoir des emprunts pour 400 000 ou 500 000 euros d'équipement.
Les
États-Unis, carrément, ça roule sur pied. Ils ont arrêté des parcs parce que ce n'est pas rentable. Eux, ils n'ont pas les subventions que nous avons, nous. Donc, les parcs sont arrêtés pour la plupart. Donc, les gens regardent rouiller ces espèces de géants.
Ça veut dire que sur cette planète, on a la preuve que ça ne marche pas ?
Pour l'instant, oui.
Et on le fait quand même.
Bien sûr, mais comme on a fait tant de choses.
Oui.
On est dans la digne lignée, vous voyez, hein, on continue.
Et on ne parle pas des problèmes de santé, il y a de très très gros problèmes de santé avec les infrastructures que produisent les éoliennes. Ben voilà. Il y a des gros problèmes d'acouphènes, d'insomnie, de problèmes de tachycardie. Et ça, tout le monde le dit.
C'est les infrasons.
C'est les infrasons qui produisent ça.
C'est quoi un infrason?
Les infrasons, c'est très basse fréquence, on ne les entend pas en fait. Mais le corps, par contre, on les ressent.
C'est une onde,
voilà. Et qui peut aller... Il y a des études en Angleterre qui ont été faites. Dans un rayon de 10 km autour des éoliennes, il y a des gens qui ont des problèmes. Je ne dis pas que tout le monde a des problèmes systématiquement, hein, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Et dès qu'ils sortent de ce rayon, ça va mieux. Dès qu'ils rentrent dans le rayon de 10 km...
On pourrait presque comparer les effets aux électrosensibles. Ici, c'est très à la mode, les électrosensibles, parce qu'on a quand même encore des zones blanches. Donc, on a eu un afflux à une période de gens qui ne supportaient pas.
Surtout chez vous, Saint-Julien-Beauchesne.
Saint-Julien-Beauchesne, on a encore une zone blanche qui est en train de devenir de moins en moins blanche.
Ben oui.
Mais ces gens-là, ben, il leur faut des cures, finalement, hors ondes. Et finalement, les infrasons ont quasiment les mêmes effets. Ce n'est peut-être pas les mêmes gens qui vont y être sensibles. Mais là, toutes les études qui ont été faites donnent surtout en sensibilité les petits-enfants et les personnes âgées. Mais ce qui s'explique, parce que c'est ceux qui sont le plus présents, alors que ben, nous, adultes, on va travailler, on sort du périmètre. Comme disent certains de nos élus, mais il n'y a pas d'études. Ben non, en France, on ne fait pas les études. Ce qui est beaucoup plus simple pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Mais on a fait la même chose pour l'amiante, on a fait la même chose pour le sang contaminé.
Pour le portable.
Pour plein de choses. Je vais donner un exemple du problème. Actuellement, donc au Parlement, ils sont en train de réétudier la loi sur la transition énergétique. Il y a une première lecture qui a été faite par l'Assemblée nationale. C'est parti au Sénat. Le Sénat a fait quelques amendements, dont un amendement qui était quand même un minimum, qui était de reculer de 500 mètres à 1000 mètres la distance entre une habitation et les éoliennes. ça nous paraissait, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus,
un minimum. Je parle des 10 km, moi, donc.
C'est reparti, donc, avec la navette, c'est reparti à l'Assemblée nationale. Ça va être voté courant mai, je ne sais plus la date. Okay. Eh bien, vous avez le président de la commission, qui est M. Brotte, qui est un élu de l'Isère, et son adjoint, qui est M. Baupin, Europe Écologie Les Verts, ont ramené la distance minimale à 500 mètres. Pourquoi ? Parce que le syndicat des éoliens dit « Oh là là, mais vous ne vous rendez pas compte, si vous nous obligez à ne pas s'installer à moins de 1000 mètres des habitations, c'est 85% à peu près de nos projets qui ne vont pas se faire. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les politiques ? Ils se sont couchés. Et la ministre Ségolène Royal a fait pareil. Ils se sont couchés. Et dans le projet de loi qui va être revoté à l'Assemblée nationale, on va revenir sur les 500 mètres.
De toute façon, il n'y a aucune démocratie là.
Voilà. Deux pas en avant, trois pas en arrière.
En gros,
oui, mais ça vous montre le poids de ce que disait Hélène tout à l'heure, des lobbies éoliens, et puis le peu de consistance de notre personnel politique. C'est à pleurer, quoi. Par moments, c'est vraiment à pleurer. Alors que leur rôle, c'est justement de veiller...
Ils sont élus pour ça, veiller au bien-être,
De leurs citoyens.
Nous les élisons pour ça.
Oui, oui. Non, mais ils vous disent qu'ils vont être élus pour ça. Tout leur programme, ils sont toujours en train de dire...
Ils ont des biens et des personnes.
Comment on appelle ça, les campagnes électorales.
Campagne électorale.
C'est ironique.
C'est la campagne qui était...
Parce que vous parlez de ça, de campagne électorale, il faut savoir que nous, sur la commune de la Baume, où il n'y a pas de projet éolien, proprement dit, mais on a une co-visibilité... Il y a eu quand même, sur 120 voix, au départemental, la dernière, 60e bulletin non aux éoliennes. Notre maire n'a pas tenu compte, apparemment, il a des problèmes. Voilà.
C'est remonté à la préfecture.
Vous rendez compte ? C'est remonté à la préfecture, bien sûr. Donc, tellement les gens sont remontés. Vous rendez compte ? Sur 120 personnes, on avait la majorité au premier tour, nous, d'entrée. Je veux dire, 61 bulletins non aux éoliennes. Bon, qui sont passés, bien sûr, en bulletin nul, hein, bien entendu.
Oui.
Mais ils n'en tiennent pas compte, je veux dire. C'est comme... C'est quand même de nier la réalité à ce point, c'est quand même grave, je veux dire. C'est
sourd et aveugle.
Complètement.
Mais ils veulent, elle.
Non, d'ailleurs, on le disait dans le blog que ça rend sourd les éoliennes.
Ouais. Les éoliennes, ça a des effets néfastes sur la santé. Particulièrement sur nos élus.
Mais nous, on a un blog, c'est notre président qui s'en occupe. Ouais. C'est
vous
pas
avez
mal.
Un blog, vous ouais. pouvez donner l'adresse.
OBUH Nature.
C'est www.obuhnature, tout collé, .blogspot.fr.
Dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Dans la nuit claire des voiles, oublie le gouvernail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Serre le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Au vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va.
personnellement, ce que j'aimerais, c'est avant tout que nos populations prennent véritablement conscience de ce que c'est et arrêtent de nous prendre pour des victimes.
Oui, mais c'est un problème d'information.
Contre, hein, et nous dire, moi je me fais insulter maintenant dans mon village. Je veux dire...
Oui, tu vas empêcher les gens de gagner de l'argent facile.
Je veux dire,
c'est les contraries, ça, mais c'est clair.
Là, je me renseigne d'ailleurs s'il
oui,
y a des
propriétaires de terrain
voilà,
qui traînent.
Non, mais c'est vrai
mais
que
c'est pas normal, hein.
L'enseignement, un des enseignements majeurs qu'on peut faire, c'est qu'à partir du moment où on donne une information, les gens commencent à se poser des questions, voire à changer d'avis. Le problème, c'est que vous avez un tel matraquage médiatique sur, oui, la transition énergétique, le réchauffement climatique, les éoliennes, c'est une énergie propre, etc. Ça, c'est le discours qui descend.
Gratuit.
Etc. etc. Donc les gens,
paye, le vin,
ils se posent pas la question. Ils se posent pas la question. Quand ils voient arriver des gens comme,
non, mais ça vit,
comme Francis, Hélène ou moi, et on dit, vous savez, vous avez bien réfléchi, vous avez vu ça, ça et ça. On dit,
Non, mais c'est ça.
Et après, quand on commence à les informer, qu'ils commencent à rentrer dans le sujet, bah, c'est ce qui s'est passé à la Baume. Hein. La Baume, au départ, ils étaient tous
courts. Ouais, ouais.
Et maintenant, je ne dis pas qu'ils sont tous contre, mais majoritairement,
ils sont contre. Pas d'opinion.
Ce qui est malheureux, c'est de... Moi, je me perçois que Saint-Julien, on est quand même moins concernés, parce que nous, le projet n'est toujours pas sorti. L'étude n'est pas faite, c'est toujours à l'état de projet de projet. Hein. Donc nous, on se bat avant, parce que ma grand-mère me disait, qui était du 20, début du 20e, vaut mieux prévenir que guérir, mon petit. Donc on essaye de prévenir, mais ce n'est pas évident non plus. Mais je m'aperçois une chose, c'est que malheureusement, là, au Haut de Montbrun, ils se sont battus comme des lions, et il a fallu que la réunion publique Boralex, pour que les gens réalisent que ça y est, ils étaient là. Ça y est, c'était plus qu'un projet. C'est qu'ils étaient sur le terrain, tout d'un coup, lever le bouclier. Alors que si les boucliers, les gens les levaient avant...
Ouais, mais encore, il aurait fallu qu'on le sache avant. Hein. Le problème, c'est qu'ils nous ont caché les projets jusqu'au dernier moment. On l'a pris par hasard. Hein. C'est vraiment un concours de circonstances.
On nous a fait croire que le projet sur la Haute-Baume et Montbrun, c'était suite à un appel d'offres de 2012.
Alors que le projet a été arrêté en 2008.
Et on a découvert une délibération du maire de la Haute-Baume signée en 2008, donnant à Boralex l'autorisation de créer un parc éolien. Ça en dit long sur...
C'est pas mal, hein.
C'est bien, hein. Ouais, non, mais quand on gratte un peu... Mais bon, c'est dur, pour des infos, je vous dis
oui,
pas.
Oui, voilà, il faut gratter. Hein,
ouh là là, se battre sans arrêt. Gratter beaucoup,
pas,
même,
hein.
Non, il faut faire un travail de fond tous les jours, ça devient un boulot terrible.
On a un réseau d'informations maintenant, parce qu'on est un peu, j'irais, brûlé au niveau même des administrations, qui sont censées être à disposition du public, donc du citoyen.
C'est pas chaud.
Mais le souci, c'est ce que veulent bien entendre les gens. Les gens, moi je vois dans nos montagnes, moi ça m'a effaré quand j'ai réalisé ça. Mais on ne peut pas faire ça à monsieur le maire. Mais je ne vous dis pas d'aller faire du mal à monsieur le maire, je vous dis de vous prononcer sur un projet. Vous êtes pour, vous êtes contre, nous on vous donne de l'information, vous faites votre opinion. Oui, mais on ne peut quand même pas faire ça contre monsieur le maire. Si monsieur le maire, il mène un projet, il peut en mener d'autres. Ah oui, non mais on l'a élu, hein, on ne va pas être contre lui. Mais vous n'êtes pas contre lui, vous êtes contre un projet d'un conseil municipal. Ça n'a rien à voir. Je dis, moi, le maire, il peut s'appeler XYZ, c'est pas un souci.
Oui, et puis c'est aussi l'idée qu'on élit quelqu'un et après on n'y touche plus.
Voilà, on n'y touche plus et surtout on se responsabilise.
Voilà. Il a carte blanche.
Voilà.
Mais il a carte blanche. Le problème, il est là. C'est qu'il
a carte blanche
en plus, hein, réellement. Quoi. Ouais.
Il y a tout à fait.
Ils ont des pouvoirs, c'est impressionnant. Faut le savoir, quoi.
Ah oui, c'est impressionnant, hein. Les préconseils chez le maire, on arrive en conseil, tout est fait. Hein. Tout est décidé. Ça reste le strict minimum pour rester dans la loi, pour que le préfet ne mette pas son veto. Ça reste véritablement aux normes des collectivités territoriales et du code des collectivités territoriales, mais ça va pas plus loin. Moi, je fais tous les conseils.
Pareil en com-com, c'est pareil en réunion de com-com, c'est tout comme une là-bas. Hein. C'est des sujets qui les dérangent, ils règlent ça en commission.
Donc moi, j'avais demandé à assister sans manifester, puisque en com-com, on ne bouge pas, on est
non,
sage.
Non, on n'a pas le droit de parler.
Mais
en conseil municipal non plus. Oui, mais des fois,
c'est mais par contre, on a droit à la parole en fin de conseil municipal si le maire peut vous donner la parole. Nous, il nous la donne.
Alors, c'est à son bon vouloir.
Oui, tout à fait.
C'est à son bon
je vous dis, il a vraiment une carte blanche, le maire.
En conseil communautaire, on n'a absolument pas droit à la parole. Moi, je sais que j'ai demandé si on pouvait assister éventuellement à une commission, sans rien dire, mais savoir comment ça se passait.
Pour savoir quel
rôle remplit cette communauté de communes qui est en train de prendre une place énorme dans les décisions des communes. Non,
le directeur de la communauté de communes, on l'a pas élu.
C'est les maires qui les élisent.
C'est les maires qui les élisent.
Le conseil communautaire, ce sont que les élus.
C'est du suffrage censitaire, c'est pas du suffrage universel.
Non, rien à voir.
C'est la même chose que nos élections sénatoriales. C'est des grands électeurs, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas le droit de regard sur ce qui s'y passe. Et c'est un petit peu dommage parce que là, aujourd'hui, leurs compétences sont de plus en plus étendues. Et les communes perdent du pouvoir sur leur propre denier et sur leur propre territoire. Enfin, là, nous, par exemple, le projet de Saint-Julien-Beauchêne est géré par la communauté de communes. Le maire n'a plus rien à dire. Toutes les études, il n'aura à dire que pour signer le bail. Parce que ce sont des terrains communaux.
D'accord. Puis parce que ça l'arrange bien, comme
et
ça.
Parce que ça l'arrange bien, sinon il a. Il dit, moi, j'habite à côté de la mairie, voilà. Donc à chaque fois qu'il me voyait, il lui poussait des boutons.
Non, mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un maire refuse de signer un bail?
Ah, bien sûr, ça existe.
Ça existe. Ça,
oui. Ah oui, ils ne sont pas tous pour, heureusement. Oui. Mais chez nous, ils sont tous pour. Hein. Bon. Malheureusement, chez nous, ils sont tous pour. Donc.
C'est pas de pour.
Ce
qui est impressionnant, c'est qu'il y a 8 communes sur la communauté de communes. Et on dit sur 8, c'est quand même un pour. Il y a toujours des règles de pourcentage, hein, on dit. Mais sur 8, on est à 100% de pro-éolien.
Ouais. Ah, on va dire que Pinet maintenant, elle est contre.
Aspre,
ouais, oui, ça, c'est la meilleure d'Aspre maintenant.
Ça ouais, ça oui, tient, parce ouais. qu'elle a sa petite centrale solaire, et puis que bon, il y a des bisbis quand même encore sous-jacents de présidence de communauté de communes, d'éjection, d'éviction, politique. Donc, socialiste, UMP. Là aussi. Alors que l'intérêt commun devrait faire table rase de toutes ces choses, mais l'intérêt commun, alors pourtant nous le sert, hein, intérêt communautaire.
Ah mais non, mais ça c'est facile.
Conseil communautaire, intérêt communautaire. Mais on n'a pas compris ce qu'on faisait partie.
Ça, c'est regarde aux élections départementales, la gauche avait combien en tout 19 voix sur je ne sais pas combien. Ils ont été obligés de se faire élire par les voix de gauche. Pour vous dire s'ils s'entendent bien entre eux. Là. Ça vous montre que la droite a été obligée de se faire élire le président par les voix de gauche. Alors qu'il n'y avait que 6 conseillers.
Mais voilà. C'était la contrepartie d'évacuer Arnaud.
Voilà.
Ouais. C'est des magouilles.
Quoi. Oui, c'est des magouilles politiciennes. C'est de la politique politicienne. Enfin, on lâche en rien parce qu'on est de plus en plus nombreux. Nous, pour une petite association sur nos communes comme ça, on est plus de 100 maintenant. Donc, ouais. C'est quand même important. Hélène, ils grossissent de semaine
oui,
en semaine.
Voilà, donc, plus ils évoluent, plus on grossit, nous.
Hein. Voilà, mais de toute façon, c'est obligatoire. Hein. De toute façon, on est liés directement.
Ils sont chez eux. On est à 3 km à vol d'oiseau de Montbrun. Hein. Donc, il suffit de passer un col, l'ancienne route, qui reliait nos communes avant, qui avait route dans les vallées. Et là, les gens, ils commencent à se dire. Et
oui, ça réagit. Hein.
C'est pas loin. On a quelques agriculteurs, éleveurs qui disent oh là là, attendez, c'est nos terres agricoles. Nous, on va faire comment pour faire pâturer nos bêtes? On va avoir les éoliennes, ça va donner quoi? On ne connaît pas. Il y a des effets sur les élevages. C'est pas
oui,
anodin.
Parce que si les enfants et les personnes oui. âgées sont mais sensibles, le bétail
contre, il y a eu ouais. beaucoup plus d'études sur le bétail que ce qu'il y a eu sur les
oui,
gens.
Oui, ça intéresse plus aux animaux, ce qui est une bonne chose, mais les humains, ça compte pas vraiment.
Ouais. Parce que vous voyez, ils ont 4 pattes par terre, donc tout ça, toutes ouais. les vibrations dans le sol, etc., ils les ressentent beaucoup plus que nous. Donc eux, ils ont aussi le problème des vibrations.
Des documents qui montrent que des poulains qui vivent à proximité d'éoliennes ont des déformations au niveau osseux à cause des vibrations dans le sol. Véridique, hein, c'est pas. On va l'appuyer. Hein.
Imaginez une pale qui pénètre l'air à 400 km/h et la vibration que ça redonne dans le mât. Le mât, il est dans une dalle en béton ferraillée. La ferraille, elle conduit. Hein. Donc la vibration, elle s'évacue en terre.
Oui, parce qu'en bout de pale, ça tourne à presque 400 km/h. Il faut le savoir, quoi. C'est pas anodin. Hein.
Quand elle veut bien tourner.
Quand elle veut bien tourner, bien entendu. Hein, mais bon.
S'il n'y a pas assez de vent, on leur fournit un peu d'électricité.
Oui, l'hiver, surtout l'hiver, pour pas que les moteurs gèlent. Donc ça, en fait, quand ça tourne pas, qu'il n'y a pas de vent l'hiver, ça consomme de l'électricité. Aussi, mais il y a tellement de trucs à dire là-dessus, c'est une aberration.
C'est une fausse bonne économique, c'est une aberration démocratique, c'est une aberration écologique.
Plutôt que de mettre de l'argent là-dedans, ce serait bien de faire de la recherche fondamentale, parce que là, c'est des brevets qui datent de 50 ou 60 ans, c'est pas efficace.
Parce que l'énergie en France est centralisée, parce que c'est une source de fiscalité.
Après, c'est vrai qu'en milieu rural, il y a des gens qui ont des éoliennes, 4 panneaux photovoltaïques, qui sont autonomes, hein, je veux dire, c'est pas. Mais bon, ça, c'est en milieu rural, quoi. dans les villes, c'est compliqué.
Et pourquoi ça, si ça peut se faire en milieu rural, pourquoi ça ne pourrait pas se faire en ville?
Oui, mais parce qu'après, si vous êtes chez vous, vous mettez une petite éolienne ou un petit panneau photovoltaïque ou je ne sais pas quoi, géothermie.
Et
ou...
dans ma banlieue, je ne peux pas le faire.
Dans ma banlieue, si vous voulez être maison, vous pouvez mettre du photovoltaïque, vous pouvez mettre votre petite éolienne, ça va être plus difficile.
Sur vos HLM, ça va être plus compliqué, je pense.
Sur les HLM, après, c'est une décision collective. Mais ça peut se faire. Il y a des immeubles qui sont équipés. Bien sûr, il y a des immeubles en
question. Mais ça ne rapporte pas, ça. Qu'est-ce que vous dites là? Mais ça rapporte pas.
À l'autonomie, ça rapporte rien.
Rien, c'est ça le problème. Oui.
Et voilà, c'est ça.
Non, mais là, vous prêchez des convaincus, nous, on serait plus.
Mais, dès que vous sortez du circuit de la consommation aujourd'hui, dans nos sociétés, hein, c'est pas spécifique à la France, vous êtes plus dans le moule. Hein. Le moule, il faut consommer de l'électricité, de n'importe quoi.
Consommer tout court, faut consommer
n'importe quoi. Alors qu'au niveau énergétique, on commencerait par avoir une consommation un petit peu plus. Je dirais pas civique,
intelligente,
tout du moins raisonnée, mais il y aurait moins de pertes, il y aurait moins de gaspillage. Et quand vous avez un parc de 10 éoliennes au-dessus de votre tête, bah, votre maison, forcément, les impôts sont toujours les mêmes, mais elle vaut beaucoup moins cher.
Oui, ça perd entre 20 et 30%. Si c'est trop près, ça vaut plus rien, plus personne ne vous l'achète.
Ça vaut rien.
Voilà. À Saint-Julien, dernièrement, il y a 2 ventes qui se sont arrêtées avec le projet éolien. Et il n'est pas encore sorti de terre. Donc un lotissement communal qui est à vendre, donc soi-disant notre maire se bat pour vendre le lotissement communal, donc
il remet des éoliennes
en vue imprenable.
C'est une aberration.
Là, il verra les 10 en ouvrant toutes ses fenêtres. Il ne faut pas rater, ils sont juste au niveau. Donc, éolienne, c'est vrai que nos montagnes, elles vont se dépeupler. Et hier, notre maire l'a très bien dit à la cérémonie du 8 mai, il a conclu en remerciant les 16 personnes qui s'étaient déplacées pour la commémoration du 8 mai,
oui.
En disant, merci à ceux qui étaient présents, mais Saint-Julien se dépeuple. Et là, il est en train d'enfoncer le clou du dépeuplement.
Mais c'est eux qui font ça, de toute façon.
Nous, on a calculé sur notre commune, dans 10 ans, l'ancien maire a calculé sur notre commune, dans 10 ans, le plus jeune de la commune aura 50 ans. Et après,
c'est
on
normal,
parle de désertification
normal.
Rurale,
c'est
on
normal.
Parle que rien n'est fait pour nos campagnes, mais rien n'est fait
ouais,
déjà au
fait,
niveau...
Tout est fait, tout pour, est fait la pour la désertification.
Parce qu'ils regardent le court terme, de toute façon,
Et nos politiques, notre député en tête, il dit, mais attendez, il n'y a personne, si peu de gens, ben là, au moins, ils servent le plus grand nombre. Voilà, donc, quand on a rencontré notre député, j'ai dit à nos amis, c'est bon, vous pouvez supporter, hein. Vous êtes les trois péquenots.
Même ceux qui sont pour les éoliennes, personne ne veut habiter à côté de nous.
Oui, c'est ça, pour le plus grand nombre, Le plus grand nombre,
non,
c'est
alors,
on cite Marseille, Nice, où notre maire a une réunion d'information, nous a même cité que si on ne mettait pas des éoliennes à Saint-Julien-en-Beauchesne, 10, Nice allait manquer d'électricité.
Ça nous empêche de dormir, ça, Tim.
Moi, je ne dors plus depuis, parce que je suis ancienne niçoise.
Non, mais ils n'ont qu'à les mettre sur la Côte d'Azur, il y a du vent là-bas.
Il ne veut pas être rosier.
Personne n'en veut.
Par contre, il y a des projets au large de Nice, en offshore. Il y a des projets au large de Montpellier en offshore.
Oui,
ça va être un sacré autre problème. Parce que les dégâts, là,
et puis là, il n'y aura pas d'habitants pour dire non,
voilà.
On ne veut pas.
Voilà.
Ça fait
voilà.
Des dégâts quand même. Hein.
Ça, bien mais là, entendu, là,
parce que les Bretons, ils disent que ça change la puissance des courants. Et c'est plus les mêmes poissons qui sont avec ces courants-là.
Là, ça, c'est les hydroliennes qu'il veut parler. C'est les éoliennes.
Ah non, les éoliennes offshore.
Ah oui.
Parti.
À ce niveau-là.
Ben oui, comme ça fait un goulet.
Ah ben oui, ça fait des goulets, oui, les fondations.
La puissance des courants, et c'est plus les mêmes poissons. Donc ils pêchent plus les mêmes choses.
Déjà, ils peuvent pas les pêcher entre les
éoliennes,
d'ailleurs.
Donc les quotas de pêche sont en fonction des espèces. Selon l'espèce qu'elle a, ben, ils n'auront peut-être même pas de quotas à pêcher. Eux, ça va être un problème économique. Mais bon...
Personne ne les veut, c'est bien ce qu'on dit.
Comme personne ne les veut sur Terre, on est en train de les mettre sur Terre.
Sur Terre, ça a trop de problèmes. On n'a pas un pays où on peut mettre des éoliennes. Voilà, c'est pas possible. Trop de proximité avec les habitations.
Tu vois le Languedoc, tu vois l'Aveyron, ils ont massacré.
Bien sûr, c'est une catastrophe. Des beaux pays comme ça, franchement.
Mais même, tu vois, regarde, en Hollande, nous, on a une de nos adhérentes à Saint-Julien qui est hollandaise, qui vit en Hollande la plupart du temps. Même en Hollande, qui
n'ont pas
d'énergie. Hein. Je veux dire, c'est vraiment que l'éolien, que ce soit en mer, ils ont
des centrales thermiques aussi.
Des centrales, mais centrales aussi avec les marées, etc.
Oui,
ils
ont
un petit peu modifié leur source énergétique. Et là, ça y est, même l'offshore, ils arrêtent.
De toute façon, ils commencent à dédommager les gens qui ont des soucis. En Australie, pareil. Il y a tellement de problèmes,
de se servir de l'expérience de ceux qui sont un peu en
avance. Non,
nous,
on fait tout.
Ça,
on fait toujours en dernier, mais ça ne sert pas de leçon.
Et on fait venir des entreprises comme Boralex, qui est canadienne,
Donc ça ne va rien rapporter à la France, puisqu'à la terre...
Les éoliennes, c'est allemand ou...
danois, mais c'est fabriqué en Chine pour la plupart.
Alors en plus, je disais dernièrement, là, en Chine, une éolienne est vendue 640 000 à 650 000
euros. Je l'ai vu, ça, ouais.
Nous, on nous dit qu'elle coûte 3 millions.
Eh oui. Donc il y a des intermédiaires qui ramassent encore, là.
Ça, c'est un métier d'avenir.
Ouais, non, mais c'est... Ouais. J'ai entendu dernièrement que les casinos Partouche commencent à investir dans l'éolien.
Ça m'étonne pas.
Et Ikea aussi.
On est compte. La société Boralex, quand on a fait une réunion pour aller contre les éoliennes, on a fait une étude sur eux. Leur action a augmenté en 18 mois de 41%. Alors, je ne sais pas si quelle société.
J'avais 3 sous. Il fallait les mettre en
éolien. Voilà. Ouais. On est content, 41% du mois.
Là, il faut quand même bien viser le surveiller. Parce que le jour où ça s'inverse, comme en Espagne, vous perdez tout. Hein. En Espagne, les petits actionnaires comme ça, ils ont tout perdu.
C'est pour ça que vous parliez de participation de la population. Vous parliez de participation de la population. Là, si ça se fait des trucs comme ça, c'est les 4 sous qu'ont mis les habitants.
Nous, Saint-Julien-Beauchesne, le projet qui est à l'étude, c'est un projet dit participatif, c'est-à-dire une partie des conseils régionaux, conseils communautaires, population, mairie éventuellement, et bien entendu le promoteur éolien. Mais dans ces projets, alors cette idée de participative vient d'Allemagne. C'est des Allemands, ils en ont tellement, puis la population commence tellement à se monter contre ce qu'ils voient tous les jours. Donc ils ont mis au point ce système de participation, donc on ouvre une partie du capital à la population pour l'étouffer. C'est-à-dire, une fois que vous avez acheté une action, vous êtes censé ne plus râler. Et on vous dit, vous aurez...
Oui, mais après, je te coupe, je crois que c'est 3% du capital, je crois. C'est
1000 euros. Oui, mais quand même, ça veut dire que les gens qui ont investi leurs économies, ils ne vont pas dire, ah ben non, je suis contre.
Tout à fait, c'est logique.
Après, je vais vous donner le montant. Alors, le montant sur un projet global éolien, ce n'est pas par éolienne, c'est un projet de parc éolien. La population va pouvoir participer à hauteur de 60 000 euros en capital. Quelle que soit la composition de la population, il y a 10 habitants, il y en a 100 000, c'est toujours 60 000 euros par parc éolien. Donc 60 000 euros avec des actions qui vont aller par personne de 50 à 1000 euros.
Maximum.
Rémunérés entre 5 et 7%. Selon les sociétés, c'est 7% si vous êtes du lieu pour vous remercier. Non, c'est même pas pour vous intéresser. Je ne sais plus comment ils disent, mais c'est véritablement pour vous dire, on va vous emmerder, mais vous aurez 2% en plus, quoi. C'est véritablement pour... ça va me revenir, le terme, parce qu'à chaque fois, je me dis, les gens qui lisent ça, ils ne peuvent pas tilter là-dessus. C'est un dédommagement, voilà. Donc, 7%, si vous avez investi 50 euros, parce que vous êtes smicard, vous n'avez pas grand-chose...
3,50
euros.
Et les 2%, ça ne représente pas...
C'est 4 euros, 1 euro.
1 euro,
vous avez...
Pas mal,
par an.
Bah ouais. Ah, mais peut-être tous les jours, hein?
Celui
qui investit 1000 euros, ça fait, il a fait 70 euros.
Oui, voilà.
Donc, il est toujours pas allé faire ses courses à 70 euros, même tout seul, il mange pas beaucoup la semaine.
Ouais.
Donc, l'année.
70 euros, ça, il fait
et
pas
il propose ça.
5,50 euros par mois.
Ouais, non.
C'est énorme.
Non, mais
moi, je dis, s'il fume, il a pas payé son paquet de cigarettes. Il vaut mieux qu'il fume pas. C'est peut-être une motif pour lui de s'arrêter d'ailleurs. Il y a peut-être une visée santé là-dessus.
Non, mais en fait, ces sociétés arrivent en pays conquis et ils traitent les gens comme des moins que rien.
Mais ça, c'est au niveau de nos élus. Nos élus sont persuadés qu'ils vont museler les populations avec ça. J'en ai discuté avec le président du conseil communautaire, la Comcom.
Ouais, mais c'est tout du blabla, comme d'hab.
Il va avoir, ça y est, son bâton de maréchal, il va proposer à la population de participer.
La personne qui réfléchit ne serait-ce que 30 secondes, mais qu'est-ce que c'est encore cette arnaque?
Oui, mais après, qui va aller leur vendre?
Mais souvent, en plus, je suis sûr que... D'ailleurs, il y a un projet qui a capoté, comme ça, je ne sais plus où, participatif. Ben, les gens qui avaient mis 1000 euros, ben, ils ont perdu 1000 euros, quoi.
En plus.
Eh bien oui, en plus. Oui, parce qu'en plus, c'est souvent que ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est revendu à d'autres sociétés... soi-disant, mais c'est en fait société écran, hein, qui n'ont pas, pas de capitaux, qui...
Voilà,
donc allez hop, démantèlement, démerdez-vous avec vos 50 000 euros par éolienne, et puis c'est très bien, voilà. Quand et donc les mecs...
Quand on t'intéresse un petit peu à leur montage financier...
C'est même un peu opaque quand même, on ne sait pas trop d'où vient l'argent, là.
L'argent passe d'une société à l'autre,
c'est limite.
Qui ne communiquent pas le chiffre d'affaires au sein des mêmes groupes, mais tout d'un coup, ils font des bénéfices, donc il y a de l'argent qui revient, ils ont leur propre société de financement. Ils n'ont même pas besoin de faire appel à
des banques. De toute façon, je te coupe, en 2018, ça va changer parce qu'on s'est fait épingler, enfin, nous, la France, à cause des subventions, justement, sur l'éolien. Donc, Ségolène Royal a réussi à négocier jusqu'en 2018 un truc bidon, là. Mais en 2018, frein à main, hein, c'est clair.
Le prix de rachat de l'électricité a été déclaré illégal par le Conseil européen, Cour européenne de justice. Le Conseil d'État a entériné cette décision, donc a dit qu'il faut arrêter ce... Mais c'était sur l'arrêté tarifaire, parce que la justice est tellement rapide, il y a 4 ans. Donc entre-temps, notre ministre de l'écologie a ressorti un nouvel arrêté tarifaire. Donc l'autre n'est plus en vigueur, mais le nouvel est en vigueur. Alors ce qui fait qu'on est toujours en train de racheter l'électricité à un prix condamné par l'Europe.
L'éolien, c'est 91 euros du mégawatt, alors que le prix du marché, c'est 35-45 euros. Quoi. Voilà. Donc c'est bien subventionné. Quoi. C'est minimum deux fois et demi le prix, quoi, du prix du marché. Donc voilà. Ah non, comme, mais si on ne pourrait pas tout vous dire, on en a des tartines comme ça, bah on y passe la nuit.
Non, on ne va peut-être pas y passer la nuit, ça ira comme ça pour cette fois. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler prochainement. Alors à bientôt, sur les ondes de notre radio préférée. We'll be right back.